une très bonne question pour vous. Devons-nous nous laisser guider par l'opinion publique en ce qui concerne le péché? La parole de Dieu va nous donner une réponse remplie de sagesse et de vérité aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Il arrive souvent qu'on parle du péché à nos émissions. Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse éviter ce sujet. Quand on réalise que c'est à cause du péché que Jésus est venu souffrir et mourir sur une croix. Heureusement qu'il l'a fait. Sinon, on serait tous perdus pour l'éternité. C'est vraiment bon de connaître ce que Dieu pense du péché. Voici nos questions pour aujourd'hui. Qu'arrive-t-il à une église si elle ferme les yeux sur le péché? Devons-nous traiter tous les péchés de la même façon? Est-ce que l'opinion publique peut être notre guide concernant ce qui est péché et ce qui ne l'est pas? Que signifie être livré à Satan? Est-ce qu'on peut couvrir nos péchés en s'impliquant dans les activités de l'Église? Qu'est-ce qui arrive si on ne se repent pas de ses péchés? De quelle manière devons-nous reprendre un frère dans la foi qui tolère le péché dans sa vie? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Demandons-lui de nous disposer à recevoir cet enseignement, qu'il puisse toucher nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on aimerait réclamer ta présence. On en a besoin. On est à tes pieds et on veut t'écouter, comme si tu étais là, comme si on voyait ton visage. On veut que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous dises ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas dans nos vies, afin qu'on soit transformé par toi. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous sommes tous des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous passerons tous devant trois tribunaux. La cour de l'opinion des autres, la cour de la conscience et le tribunal du Seigneur Jésus, la cour suprême. Les deux premières cours ne sont pas des bons guides. Le dernier tribunal est juste et impartial. De plus, nous avons vu que nous avons tous reçu de Dieu et que nous n'avons pas sujet de nous glorifier. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ceci n'était pas de la médisance ni une rumeur. C'était un cas et il était connu de l'Église et probablement du public. Même les païens ne se vantaient pas d'un tel péché. C'est le cas d'un homme qui a pris l'épouse de son père, c'est-à-dire sa belle-mère. Verset 2. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans la fiction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il règle la question d'un péché très grave. L'assemblée de Corinthe faisait un compromis avec le mal. Chers amis, nous ne pouvons fermer les yeux sur le péché. Nous devons reconnaître que nous devons régler les péchés graves commis dans nos églises. Le Seigneur Jésus avait donné des directives précises dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. ces directives ne furent pas suivies par l'Église de Corinthe. Nous sommes devant un cas de compromis avec le péché. En tolérant le mal, l'Église de Corinthe se mettait dans une situation difficile et dangereuse. Nous devons tenir compte de certains détails dans ce dossier. Nous sommes devant un cas connu du public et il n'est pas nécessaire de prouver sa véracité. Nous n'avons pas affaire à de la médisance ou du oui-dire. Paul n'aurait pas abordé un tel sujet si cela n'avait été qu'une rumeur. Nous ne pouvons pas traiter tous les péchés de la même façon. Nous ne sommes pas devant un cas discutable ou d'une affaire dans une zone grise, mais qui était de toute évidence un péché grave. C'était un cas d'inceste. Il était considéré grave même à l'extérieur de l'Église. Maintenant, l'opinion des chrétiens varie au sujet de certaines activités. C'est ce que j'appelle un péché douteux dans cette émission. Si elles sont admissibles dans certaines confessions religieuses, elles ne le sont pas dans d'autres. Voici une illustration que propose J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes. Une dame se convertit en fréquentant l'église du pasteur McGee. Elle le rencontra 3 mois après sa conversion, car elle était troublée. Elle dit au pasteur, « Je suis déçue et découragée. J'ai toujours été une grande fumeuse, et je désire ardemment cesser de fumer. J'essaie depuis 3 mois, et j'ai échoué. Je déteste cette habitude, et je me déteste parce que je suis accro du tabagisme. Qu'est-ce que je devrais faire? » Le pasteur McGee lui donna quelques suggestions et lui dit, « C'est un péché douteux, un que tu détestes et que tu veux abandonner. Je ne te le reproche pas, car cela affecte ton témoignage. Premièrement, continue de prier et demande à tes amis intimes d'en faire autant, comme ils le font présentement, selon ce que tu affirmes. De plus, je vais prier pour toi. Je sais que Dieu va t'accorder la victoire, puisque tu la recherches et la désires. Deuxièmement, ne te décourage pas. Troisièmement, ne le dis pas au sein de l'Église. Si tu le fais, ils vont te déchirer parce qu'ils pensent que c'est le péché le plus grave au monde. » 3 mois plus tard, le pasteur la vit arriver toute rayonnante à l'Église. Après le service, elle se hâta de dire au pasteur McGee, « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je n'ai pas fumé depuis notre dernière rencontre. Dieu m'a libéré. » Certains considèrent fumer comme un péché douteux, parce que la Bible ne dit rien à ce sujet, et il n'y a pas d'immoralité rattachée au tabagisme. Il doit donc être réglé d'une façon différente. Nous ne devrions pas faire comparaître quelqu'un devant l'Église parce qu'il fume. Par contre, un cas d'immoralité sexuelle ne laisse aucun doute, et c'est un cas de discipline. C'est carrément un rejet de la loi de Dieu. Même les païens hors de l'Église condamnaient l'inceste. Cependant, je tiens à préciser au sujet de la cigarette que notre corps appartient au Seigneur et nous n'avons donc pas le droit de le détruire. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le tabagisme est néfaste pour notre santé. L'opinion publique ne doit pas être notre guide, chers amis. J'aimerais préciser une autre chose. Avoir un conjoint de fait sans être marié est un péché aux yeux de Dieu. Qu'importe ce qu'en dit l'opinion publique et combien de personnes vivent dans cet état. La parole de Dieu affirme que c'est un péché. Donc, nous ne pouvons pas coller une autre étiquette à cette pratique. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas un péché douteux. La pureté précède la puissance. L'Église de Corinthe n'avait pas besoin de confirmer le fait que l'homme vivait dans le péché. L'erreur de l'Église fut d'avoir toléré ce péché. En ne faisant rien, les chrétiens l'approuvaient. Un tel compromis était la pire chose qu'ils pouvaient faire. La pureté précède la puissance, chers amis. Une Église impure est une Église malade et paralysée. Examinez les Églises contemporaines et voyez, si ce n'est pas vrai. Versets 3 à 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Paul leur dit de se réunir, et si cet homme ne veut pas délaisser son péché, de le livrer à Satan. C'est toute une recommandation. Que veut dire « livrer à Satan » Paul a écrit ces mots, donc il était sérieux. Mais que veut dire « être livré à Satan » La parole de Dieu enseigne qu'on peut être livré à Satan. Le personnage Job de l'Ancien Testament fut livré à Satan. Celui-ci s'était présenté devant Dieu et il s'était plaint qu'il ne pouvait pas toucher à Job. En fait, Satan dit à Dieu, « Tu affirmes qu'il n'y a personne d'aussi bien que Job sur toute la terre, mais si tu me permets de lui toucher, nous verrons si Job t'est si fidèle que cela. » Et Dieu permit à Satan de mettre sa main sur Job, mais il ne lui permit pas de le faire périr. Ceci est réconfortant pour nous. Satan ne peut toucher un enfant de Dieu à moins que celui-ci le lui permette. Si Dieu l'autorise, il a une bonne raison de le faire. De plus, le Seigneur Jésus dit à Pierre que Satan les avait réclamés, les apôtres, pour les cribler comme du froment. Luc, chapitre 22, verset 31. Jésus permit à Satan de le faire le soir de son arrestation. Pierre renia Jésus à trois reprises. Ce qu'il a fait était aussi lâche que la trahison de Judas. Cependant, Pierre s'en voulut d'avoir fait cela, et il a haï son péché. Il a pris conscience de sa faiblesse. Dieu s'est servi de cette expérience afin d'affermir Pierre pour le jour de la Pentecôte, alors qu'il prêcha avec puissance. Nous avons aussi un autre exemple, cette fois tiré dans 1 Timothée chapitre 1 verset 20, où Paul dit « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Ces deux personnes qui se disaient chrétiennes blasphémaient. Paul affirme qu'il les a livrées à Satan. Maintenant, tout en faisant attention à ne pas nous emporter et en examinant nos motifs, tout en étant conscients que nous pourrions tomber dans le fanatisme, nous devons reconnaître que nos églises sont pleines de personnes qui font du tort à la cause de Jésus-Christ. Je pense que nous avons le droit de demander à Dieu de livrer certaines personnes entre les mains de Satan, afin qu'elles cessent de léser le corps du Seigneur Jésus qui est son Église et d'avoir un mauvais témoignage. Le pasteur McGee a affirmé avoir prié Dieu afin qu'il livre certaines personnes entre les mains de Satan. En effet, une telle discipline amène un croyant à la repentance et elle révèle que les autres ne sont pas de véritables croyants. S'ils sont chrétiens, ils reviennent au Seigneur Jésus. C'était un remède puissant, mais les chrétiens charnels de Corinthe en avaient besoin. Paul les assure qu'il est avec eux en esprit et il indique clairement sa position. Il prie afin que cet homme soit livré entre les mains de Satan. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? S'impliquer dans des activités ne couvre pas notre péché. Pendant que l'Église fermait les yeux sur un péché grave, elle se vantait de ses autres activités. L'Église se glorifiait. Les chrétiens se vantaient probablement des missionnaires qu'ils envoyaient partout dans le monde, du fait d'être fidèles aux Écritures et au sujet des âmes gagnées pour le Seigneur Jésus. Quelle hypocrisie! Cependant, de nombreuses personnes pensent que s'impliquer dans toutes sortes d'activités chrétiennes couvre une multitude de péchés. Paul dit que de tels chrétiens se glorifient à tort. Ne savent-ils pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Dans les évangiles, le levain a toujours représenté le péché. Le péché toléré aura ses effets néfastes. Une note en passant. C'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix qui couvre nos péchés et non nos activités chrétiennes. Allons à Dieu en les confessant avec un cœur repentant, et ils seront couverts par le sang de Jésus-Christ, et ils seront pardonnés. Nous ne pouvons pas nous acheter les grâces de Dieu par nos activités. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Si nous ne nous repentons pas, notre péché s'aggrave. Lorsque l'on met du levain dans la pâte et qu'on la dépose dans un endroit chaud, le levain fait lever toute la pâte. Oui, chers amis, si nous n'interrompions pas la réaction en mettant le pain au four, la pâte continuerait de lever et elle se corromprait et pourrirait. C'est ce qui arrive à une église qui tolère un péché grave. Le péché s'aggravera et l'église perdra sa puissance spirituelle. Dans l'Ancien Testament, nous apprenons que la Pâque était suivie de la fête des pains sans levain. Paul dit que le Seigneur Jésus, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Ceci doit être suivi par des vies libres de tout levain. Par contre, l'assemblée de Corinthe permettait la levure, c'est-à-dire le mal dans son sein. Ils enseignaient la mort et la crucifixion du Seigneur Jésus, cependant, ils admettaient du levain dans l'Église. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Paul n'enseigne pas comment être sauvé dans ce verset, mais il enseigne comment un chrétien sauvé doit marcher. La sincérité n'a jamais sauvé personne, mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez sincère. Le monde contemporain doit observer la vérité et la sincérité parmi les croyants. Paul dit de vivre sincèrement selon la vérité. L'Église de Corinthe n'était pas sincère. Elle tolérait une immoralité grossière dans son sein et elle pensait s'en tirer en prétendant que tout allait bien. Elle affirmait annoncer la vérité et vivre conformément à celle-ci alors que ce n'était pas le cas. Versets 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul leur avait déjà condamné ces péchés. L'immoralité était prédominante à Corinthe. Les 1000 prêtresses du temple de Vénus, ou Aphrodite, étaient en fait des prostituées. Maintenant, l'Église permet à un homme immoral, vivant dans le péché, de se joindre à elle et de manger avec elle. Les chrétiens l'accueillent comme l'un des leurs alors qu'il vit dans le péché. L'Église de Corinthe pensait qu'elle pouvait se placer au même niveau que les autres. Mes amis, l'Église ne peut tolérer l'immoralité du monde dans son sein et s'en tirer. Mes amis, l'Église contemporaine a perdu sa puissance. Je parle en général, car je connais des églises qui sont de merveilleux phares pour éclairer au moyen de la vérité biblique. Elles défendent et annoncent la parole de Dieu. Alors que des pasteurs tiennent ferme pour la vérité et que cela provoque des départs de leur église, d'autres ferment les yeux lorsque le monde pénètre leur église. Une église impure est paralysée alors qu'une église pure marche avec puissance. C'est le cas aussi des individus. Paul n'applique pas seulement ce principe à l'immoralité sexuelle, mais aussi à d'autres péchés, dont la convoitise. Un diacre qui détourne les fonds de l'église peut-il s'en tirer? Paul mentionne aussi les idolâtres. Il est déjà arrivé qu'une personne ayant une position dans l'Église la quitte pour se joindre à une secte. La parole de Dieu enseigne qu'une petite infection cause éventuellement des ravages dans l'Église. Un peu de levain lève toute la pâte. Versets 12 et 13. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. ôtez le méchant du milieu de vous. » L'Église n'a pas à juger les gens du dehors, car Dieu s'en occupera. Elle est responsable de la santé spirituelle de ses membres. Qu'est-il advenu de l'homme qui vivait dans l'immoralité? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous lisons « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. » Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 8. Chers amis, il faut du courage pour dénoncer le péché. Après que Paul eut mis le pied à terre au moyen de l'épître précédente, l'homme s'est repenti de son immoralité. Aujourd'hui, il faut du courage et non des compromis pour dénoncer le péché. Je pense que lorsque nous le faisons, le croyant fautif va confesser sa faute, comme cet homme de Corinthe et comme le roi David. Puis, il se repentira et changera de conduite. L'Église de Corinthe a bien agi après avoir reçu les remontrances de Paul. Pourquoi? Parce que Paul a eu le courage d'en parler. Dans la deuxième épître, Paul explique aussi pourquoi il a agi ainsi. « Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Paul affirme qu'il a agi pour le bien de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup ont une attitude hypocrite et peu convaincante. Bien, nous ne voulons pas toucher à cela car nous ne voulons pas causer de troubles dans l'Église, et nous poussons tout cela sous le tapis. Mes amis, Dieu ne peut pas bénir un individu ou une Église qui agit ainsi. Si Dieu bénissait les gens dans ces circonstances, il serait un menteur. Dieu va nous juger d'avoir fermé les yeux sur le péché. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates, chapitre 6, verset 1er. Lorsque nous reprenons quelqu'un, nous devons avoir en vue le bien de notre frère ou de notre sœur dans la foi. Nous pouvons être fermes tout en étant doux. Toute réprimande doit être faite de façon à ce que la personne fautive soit à l'aise de revenir lorsqu'elle se repentira. Toute discipline faite avec colère ou un esprit de vengeance est un péché grave. Il arrive souvent qu'un pasteur soit approché par une personne qui désire qu'un autre soit mis en discipline, pour différentes raisons. Cependant, le pasteur décèle souvent de la colère, de la jalousie ou un désir de vengeance derrière la requête. Deux croyants se querellent, et l'un essaie d'entraîner le pasteur, et peut-être même l'Église entière, dans ce conflit. Chers amis, ce chapitre 5, de 1 Corinthiens nous enseigne beaucoup de choses. Ne le trouvez-vous pas pratique? À la prochaine émission, nous allons examiner le cas des chrétiens qui se poursuivent mutuellement devant les tribunaux. Mais, avant de terminer cette émission, un dernier mot au sujet du péché. Le Seigneur Jésus-Christ nous encourage, en tant qu'enfants de Dieu, de ne prendre point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Suis-je prêt à condamner et à dénoncer le péché qu'il y a dans ma vie, dans mon entourage? Prendre position pour l'Évangile, c'est aussi faire cela. Prochaine émission, 1 Corinthiens 6.
Merci, Régent. Eh bien, c'est très clair. On ne peut pas acheter les grâces de Dieu. On ne peut pas faire toutes sortes de bonnes œuvres en pensant qu'elles vont compenser pour le péché que nous tolérerions dans nos vies. La seule chose qui efface nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. On peut voir, même dans l'Église du Seigneur Jésus, des gens qui tolèrent le péché dans leur vie et qui participent à presque toutes les activités de l'Église. Ils semblent s'imaginer qu'à force de faire plein de bonnes choses, Dieu va passer par-dessus leurs péchés, il va tout pardonner, comme ça. Même en tant que chrétien, on a vu à travers l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui que c'est encore le sang de Jésus seul qui nous lave de nos péchés. Personnellement, je trouve ça réconfortant. Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'on doit aller souvent au trône de sa grâce pour être pardonné. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Ça me fait penser à un beau verset du livre d'Ésaïe au chapitre 55. C'est le verset 7. Il dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Mon frère, ma sœur, t'es-tu éloigné de Dieu ces temps-ci? Je suis certaine que si tu prends un temps dans la prière, dans la méditation de sa parole, et si tu lui demandes où tu es tombé, il va te le montrer. Et si tu t'en repens sincèrement, il va te pardonner. Et toi, mon ami, toi qui n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, toi qui n'as pas encore mis ta confiance en Jésus seul pour être pardonné, tu pourrais le faire maintenant si tu voulais. C'est tellement simple. Tout ce que ça prend, c'est un cœur sincère, une personne qui réalise qu'il est un pécheur perdu et qu'il ne peut absolument pas se sauver lui-même. Et si tu dis que tu n'as pas de péché, eh bien, tu fais ce que j'ai fait il y a longtemps, juste avant de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. J'ai dit, « Je ne fais pas ça, moi, des péchés. » Je peux t'affirmer qu'en le disant, j'ai réalisé que ce que je disais était faux. C'était d'ailleurs un autre péché que j'ajoutais à tous les autres que j'avais commis au cours de ma vie. Je venais de mentir. Jean exprime bien ça dans sa première épître au premier chapitre, verset 8. Il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Mon ami, j'aimerais t'inviter à bien écouter ce que Jean nous dit. Dans les deux versets qui suivent, les versets 9 et 10, ces versets pourraient contribuer à une grande transformation dans ta vie. Il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Repens-toi, mon ami, et crois en Jésus. »
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.